Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge ici. Vous savez que vous avez les clés, les solutions, les idées, celles qui vont nous permettre de retrouver le sourire, celles qui vont faire qu'ensemble nous allons, oui, sortir de la crise. C'est ça qu'on aime écouter, le monde changer, le voir en action grâce à ce que vous faites pour cette heure d'observation. À mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Et notre coach qui nous accompagne toute cette semaine, c'est Riyad Boulanoir. Bonjour Riyad. Riyad est là, quelque part.
Il va revenir,
j'en suis sûre. Il va revenir, oui. Il nous fait des blagues. Bon, alors, vous savez quoi ? Je vous propose qu'on accueille tout de suite notre première invitée, qui est un start-upper qui s'est lancé, qui a osé se lancer pendant la crise. C'est comme ça, hein, quand on croit à son projet. Bonjour, William Wauters.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des Enfants Sauvages. Vous avez 27 ans. Vous avez mis au point un déodorant rechargeable zéro déchet car vous n'étiez pas satisfait de ce que vous trouviez dans le commerce. Alors pourquoi maintenant et comment allez-vous poursuivre l'aventure ? On vous écoute. Pas de papier sous les yeux, hein, c'est promis.
Ah non, il faut improviser là.
On vous laisse. On vous écoute. Vous avez 1 minute 30. C'est parti.
Alors ben, effectivement, nous on développe un déodorant bio qui a la particularité d'être très efficace, mais pas que, parce qu'on a aussi essayé de le rendre zéro déchet, on y est arrivé. Bon, c'est un projet qui dure depuis un moment, hein, qui dure depuis 2 ans maintenant, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et nous on a tout mis en œuvre pour avoir vraiment l'efficacité optimum. Et en fait, tout au long du projet, il y a une idée qui a émergé, c'est et pourquoi pas le rendre zéro déchet, c'est un déodorant à billes, je précise. Et en fait, on a réussi parce qu'on a mis au point un système, donc c'est un flacon en verre avec une bille, et en fait le flacon est rechargeable. Et les recharges sont en verre aussi. Et en fait, vous pouvez le recharger très facilement avec ces recharges en transvasant. Et au bout de la 5e recharge, nous, on vous propose un retour gratuit. On utilise les colis de désenvoi pour faire le retour. Et en fait, après, on récupère les recharges pour les nettoyer, les réutiliser. Voilà. C'est à peu près.
Oui.
Alors
le concept, c'est vrai que vous l'avez dit, ça fait un moment que vous travaillez dessus, mais là, ça y est, ça devient concret puisque les précommandes sont en cours.
Voilà. En fait, au bout de 2 ans, là, on s'est senti prêt. Pour nous, c'était très important d'atteindre vraiment le point où, pour nous, le produit était vraiment idéal. Et en fait, on veut justement rendre notre projet réel en lançant une campagne de financement participatif sur Ulule, où on propose des packs à l'achat. Et en fait, c'est actuellement en vente jusqu'au 5 juin.
Jusqu'au 5 juin, et la campagne a été lancée le 21 avril. Bonne nouvelle,
ça,
nous avons retrouvé Riyad Boulanoir, notre coach, qui va évidemment tout de suite pouvoir intervenir. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth et bonjour
Salut,
tout le monde.
Riyad.
Bonjour tout le monde. Oui, j'ai écouté un William ému pour parler de son projet. Je l'ai regardé sur Ulule, moi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Déjà, c'est un déodorant qui est effectivement zéro déchet, qui est bio. Qui est complètement bio, qui est sourcé en France, qui a une forme de perfection aussi bien dans la forme, c'est joli, que dans le fond. Je trouve que ça a du sens, quoi. Voilà, ça a du sens, ça répond à un besoin, c'est responsable, c'est solidaire. On est en train de développer des projets avec une économie qui a du sens. Moi, j'encourage. Et sur Ulule, ils ont largement dépassé leur objectif parce qu'ils en ont déjà prévendu 6320. Donc, ils se sont mis un objectif à 8000. Franchement, je leur souhaite le meilleur et je voudrais encourager William.
William, on va insister sur le côté rechargeable aussi, parce que vous avez voulu faire du bio, du beau, Riyad l'a souligné, mais ce côté rechargeable, c'est vraiment, on est vraiment dans la responsabilisation de celui qui achète.
Oui, tout à fait. Ben, moi déjà, dans un premier temps, j'avais absolument pas envie de participer à la pollution des océans. Donc pour moi, ça me semblait primordial de proposer quelque chose de zéro déchet. Et je pense aussi que c'est une vraie volonté de la part de tout le monde d'aller justement vers des modes de consommation comme ça, beaucoup plus responsables. Et on s'est dit, plutôt que de proposer quelque chose actuellement, donc il y a déjà des solutions qui existent, hein, avec des produits solides. Je pense que ça convient à une... Évidemment, il en faut pour tous et ça convient à une partie de la population, mais peut-être qu'une autre partie de la population avait aussi envie de pouvoir garder ses habitudes, ce côté pratique qu'a le déodorant à billes, et faire tous les efforts de notre côté pour le proposer de façon zéro déchet. Donc avec un système de recharge, le retour est gratuit et nous on réutilise les recharges en fait pour les nettoyer, les re-remplir. Et c'est grâce à ça qu'on peut permettre justement de ne pas changer les habitudes de tout à chacun tout en proposant un produit zéro déchet.
Elisabeth ?
Alors donc, il est rechargeable, il est bio, il est bon, il paraît être parfait.
Il est efficace aussi.
Il a l'air efficace, voilà, c'est ça. Au niveau de l'odeur, parce qu'on ne peut pas parler de déodorant sans parler odeur. Déjà, est-ce qu'il sent quelque chose ? Et est-ce qu'il, voilà, et quel sillage laisse-t-il une fois qu'on le porte ?
Alors, effectivement, au niveau des senteurs, en fait, on propose deux senteurs. Une au yuzu, qui est un agrume.
Un peu citronné.
Une au santal, oui, voilà. Et un au santal, qui est plutôt poivré et boisé.
Boisé.
Alors, ce sont des senteurs unisexes. On n'a pas voulu définir de genre à ce niveau-là, parce qu'en fait, pour nous, c'est vraiment en fonction du goût de chacun. C'est des senteurs qui sont faites avec des huiles essentielles, je précise. Donc, effectivement, il y a une senteur. Hein, et de toute façon, l'efficacité, comme dit Riyad, c'est aussi beaucoup dû aux huiles essentielles. Et donc, les huiles essentielles ont forcément nécessairement une odeur. Et en fait, tout le jeu était de jouer entre l'efficacité des dites huiles essentielles et ainsi que l'odeur. Donc, c'est vraiment pas évident, parce que formuler des avec des ingrédients comme ça, entiers, naturels, en fait, c'est un jeu un peu de casse-tête. C'est pour ça que le développement nous a pris deux longues années.
C'est clair que les produits bio, là, je viens de faire une vaisselle avec un produit ultra concentré bio. Enfin, on est obligé d'en mettre trois fois plus pour que ça dégraisse.
Bah, c'est ça.
Donc, généralement, bon, c'est sympa, on se donne bonne conscience, hein, mais franchement, je suis bien sûr à la fin du côté vraiment bio, quoi. J'en ai mis trois fois plus et je suis pas satisfait du résultat, quoi.
Dites-moi, William, vous voulez élargir la gamme, hein. C'est l'idée aussi. Vous vous êtes laissé 5 ans, donc vous avez déjà prévu la suite.
À terme, en fait, c'est ça. On aimerait proposer un ensemble de produits zéro déchet. Sans pour autant changer les habitudes de tous, le rendre vraiment accessible. Voilà, et on pense vraiment s'orienter dans tout ce qu'on trouve dans la salle de bain. Bon, pour l'instant, on n'a pas une idée extrêmement précise, tout à fait, de ce qu'on veut développer. En tout cas, on garde aussi un peu la surprise à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a un palier à 8000 préventes là sur la campagne qui va nous permettre justement de développer un nouveau produit zéro déchet avec un système intelligent, encore une fois, de recharge qu'on récupère, qu'on nettoie.
Produit encore, où, William ? À quel endroit vous produisez ?
En Provence. Voilà, il y a deux laboratoires. Il y en a un qui est spécialisé dans les cosmétiques bio et un autre dans les extraits naturels, donc les huiles essentielles. C'est quelque chose d'à part, en fait.
Et ça coûte combien, sinon ? Ah, pardon.
Comment ?
Oui, allez-y, Riyad.
Ouais, je disais, ça coûte combien, sinon ?
En fait, la première offre, nous, on a un pack à 20 euros. Donc, en fait, ce pack, on prend 5 euros de frais de port. Et ce qui est très important d'indiquer, c'est que il y a la notion de prix, de temps d'utilisation dans le prix. Donc, en fait, nous, on s'est rendu compte en testant beaucoup de déodorants à billes qu'on est autour de 2 mois d'utilisation environ. Et en fait, on s'est rendu compte en utilisant le nôtre qu'on est à 4 mois d'utilisation, donc 2 fois plus. Ça, c'est rendu possible grâce à la taille de la bille qui développe pas beaucoup qui ne dépose pas beaucoup de produits. Et en fait, comme le produit est très concentré, ben, il n'y a pas besoin justement d'en déposer beaucoup. En fait, on est sur un temps d'utilisation qui est double. Donc, on a un équivalent de prix à environ à 7,50 €.
Les enfants sauvages, c'est le déodorant à suivre. En tout cas, c'est celui que nous avions choisi de pousser aujourd'hui. Campagne qui se poursuit jusqu'au 5 juin. Vous nous donnerez évidemment, William, de vos nouvelles. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Limiter au maximum les contacts, c'est aussi en cette période de coronavirus ne pas appuyer sur une bouteille de gel pour se nettoyer les mains. Alors, Bram a inventé le distributeur sans contact et solidaire. C'est la solution.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h18, c'est l'heure de retrouver la solution avec vous, Elisabeth Assayag. Solution qui va aider pas mal de monde dans tous les endroits finalement qui accueillent du public. Oui. Ça s'appelle Humano et ce sont des distributeurs de gel hydroalcoolique.
Et oui, encore une entreprise qui s'est adaptée à la crise. C'est l'entreprise Bram qui, à l'origine, fabrique propose des machines à café, des distributeurs, des fontaines à eau, des corbeilles de fruits pour les entreprises. Le coronavirus est passé par là. Ils se sont décidés à mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact dans les entreprises et dans toutes sortes d'endroits qui accueillent du public, dans les transports, dans les écoles, dans les gares. des distributeurs très généreux parce qu'ils peuvent accueillir jusqu'à 3 litres de gel. Ça correspond à environ 3000 pchits. Et encore plus généreux puisque la start-up reverse 100% des bénéfices du gel à l'association Astrée, qui est une association qui accompagne les personnes fragiles et isolées. Bonjour Alexis Deloine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors vous êtes le cofondateur de Umano. Umano, c'est une solution de votre entreprise Bram. Comment vous avez su être si réactif et comment vous avez pu mettre en place ce distributeur de gel hydroalcoolique sans contact en si peu de temps?
Eh bien, effectivement, comme beaucoup de Français, pendant la crise du coronavirus, on a été obligé de se réinventer. Donc on nous a suggéré beaucoup de choses, hein. Nos partenaires, nos clients nous ont suggéré de nous intéresser à la sécurité sanitaire, qui était vraiment le besoin qui apparaissait de manière la plus évidente, hein. Les cafétérias d'entreprise, qui étaient notre activité classique, ont été un petit peu mises de côté pour le déconfinement. Donc on nous a suggéré de nous intéresser à la sécurité sanitaire, et donc on a vu les différentes machines passer, et on s'est dit que ça suffisait pas. Parce que nous, notre credo chez Bram depuis le début de l'activité, c'est de transformer des gestes du quotidien, donc boire un café, se mettre du gel sur les mains, en gestes engagés et en gestes qui ont du sens. Et donc ça qu'on a voulu lancer Umano, très rapidement, c'est vrai, puisque le projet a été lancé vendredi dernier.
Alors c'est ça, comment vous avez fait pour vendredi dernier, donc il y a un peu moins d'une semaine, vous avez fait quoi? Vous êtes allé voir des fournisseurs, comment vous avez pu mettre ça en place et surtout comment ça marche un gel sans contact? Un distributeur sans contact.
Alors, pour la première partie de la question, donc le lancement date effectivement du vendredi dernier, vendredi 15 mai. Maintenant, l'idée remonte un petit peu avant, hein, c'est-à-dire que historiquement, comme vous l'avez dit, Bram existe depuis 2017, c'est une équipe de 25 personnes. On était sur la cafétéria d'entreprise, zéro déchet, engagé. Notre spécialité, notre savoir-faire, c'était distribuer des machines à café, des distributeurs déjà. Et effectivement, l'idée de besoin
de
qui remontait,
c'était contribuer à la crise, hein,
Et exactement, et de proposer du gel hydroalcoolique de manière continue, de manière sans contact et avec du sens. Donc du coup, c'est allé très vite. Pendant le confinement, on a mis à profit le temps qu'on avait pour effectivement faire ce qu'on faisait déjà sur les machines à café, remonter à des fabricants français de préférence, bloquer des lignes de production, bloquer des commandes pour pouvoir servir nos clients le plus rapidement possible dès le déconfinement.
Alors ça fonctionne comment, le sans contact?
Alors très concrètement, vous imaginez une borne interactive. Alors on a une gamme de plusieurs bornes, mais vous imaginez une borne interactive avec un écran. Vous passez vos mains donc sous la machine, vous avez automatiquement une dose de gel qui peut aller de 1 à 3 millilitres qui est desservie en pulvérisation, et vous allez avoir un message positif qui va s'afficher sur la borne, puisqu'on va du coup comprendre qu'en se lavant les mains, on a aussi protégé les autres, puisque 100% des bénéfices qui ont été réalisés sur la vente de gel utilisé a été reversé à l'association Astrée. Donc vraiment, on comprend immédiatement dans l'expérience qu'on a transformé un geste sanitaire en geste solidaire.
Riyad, notre coach.
Ouais, évidemment, d'un point de vue business, c'est très sympa.
C'est le fameux pivot.
Non, mais il a réutilisé sa clientèle existante, qui était les entreprises. Les entreprises ont des nouveaux besoins. Il y répond. Qui de mieux placé que lui peut y répondre et inspire la confiance. Donc ça, il y répond très bien. C'est parfait. Encore une fois, on remarque ce côté solidaire qui revient, qui donne une économie avec du sens. Et puis encore une fois, on s'aperçoit que la crise, malgré ses côtés un peu difficiles, elle permet aussi d'encourager la créativité et toutes les façons d'entreprendre dans des temps records comme on n'a jamais vu. Donc moi je trouve ça très positif.
Alors vous parlez, Riyad, de temps record, et justement Alexis Deloine, je crois que vous croulez sous les demandes là depuis le début de la crise sanitaire. Hein. Ça se traduit comment? C'est tous les jours, c'est quoi?
Ouais, exactement. Depuis le lancement vendredi dernier, on a intéressé tout de suite, puisqu'on a des centaines, c'est des centaines de chefs d'entreprise, des responsables des services généraux, des DRH, des responsables de collectivités locales, plus globalement des personnes qui sont responsables de l'accueil du public, qui nous contactent pour commander des bornes, pour commander les bornes Umano. Ils se sont dit, je pense qu'avec notre système, ils pouvaient concilier à la fois gestes sanitaires, bien-être et engagement, comme le dit Riyad, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment une recherche très importante. Hein. On a eu, pendant tout le confinement, on a eu des messages qui ont été en boucle, hein, des messages un peu anxiogènes autour de la sécurité sanitaire. Donc c'est vrai que le fait
oui, puis ça rassure les salariés des ça rassure les salariés des entreprises de voir une bande comme celle-ci. Donc il y a, y a aussi
combien,
un côté important.
Je reviens toujours avec
toutes les questions
prises, mais ça coûte combien, ça coûte combien pour une entreprise, là, les entrepreneurs ou les DRH
qui
nous entendent.
Riyad, je vous réponds.
Bien sûr.
Donc on a une gamme qui est très large, hein, parce qu'on a voulu proposer Humano, l'expérience Humano, à toute la France et pas seulement à une certaine catégorie, à une certaine niche. Hein. Nous, on était historiquement sur les sièges d'entreprise. Mais on a voulu s'ouvrir et proposer des bornes qui peuvent s'adapter à tous les besoins, qui vont du restaurateur indépendant qui va réouvrir dans quelques semaines et qui aura peut-être pas un budget colossal à consacrer à cette expérience, mais qui en même temps voudra participer à cet effort solidaire. Donc du coup, on a aujourd'hui 3 bornes. Ça démarre à 29 € par mois pour la plus petite, qui est une borne à pédale assez classique. On a une gamme intermédiaire à 99 € par mois et une gamme plus haut de gamme. Donc c'est la borne avec écran interactif et donc les messages positifs et humains qui défilent. Vraiment l'expérience la plus complète. Là, on est à 129 € par mois.
Alors, comment faire pour ceux qui nous écoutent, hein, s'ils sont entrepreneurs ou DRH, s'ils ont envie d'installer une machine dans leur entreprise? Et il y a aussi dans les écoles, hein, vous êtes aussi en contact avec certaines collectivités.
Oui, tout à fait. Donc, comment faire? C'est très simple. Le site s'appelle humano.life. Donc on n'a pas choisi le .com, mais le .life. Donc c'est humano.life. Et dessus, très simplement, vous allez avoir la description des différentes bornes, des différents distributeurs. Et vous pouvez très simplement, en quelques clics, faire une demande. Vous serez recontacté en 48 heures maximum pour avoir plus d'informations sur comment ça marche. Vous pourrez poser toutes vos questions, notamment sur le reversement des bénéfices, la somme aussi que ça peut représenter, hein, parce que c'est une question qui revient souvent. On nous demande, mais combien on reverse finalement? Un petit exemple chiffré, si 500 entreprises ont une consommation, mettons, de 50 litres par mois, sur un an, c'est plus de 500 000 € qui seront reversés à l'association. Donc ça peut vraiment être très important, et c'était important pour nous que ce curseur soit poussé à fond et que ce ne soit pas simplement une toute petite part du bénéfice.
Bravo Alexis. Humano, donc les distributeurs de gel hydroalcoolique qui travaillent au profit de cette association Astrée, c'était la solution d'aujourd'hui sur Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser au secteur de l'événementiel. Comment peut-il reprendre vie en cette période de coronavirus? Réponse avec nos invités. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h29, vous rêviez de grands événements pour rythmer votre été, c'est peine perdue. Oui, il y aura des festivals, mais des petits, les grandes manifestations, celles qui rassemblent des milliers de personnes, sont tout au point mort. Hein, 4 500 annulés, plus de 3 000 reportés. Et avec elles, c'est aussi tout le secteur de l'événementiel qui est à l'arrêt. Alors, comment va-t-il faire pour redémarrer? Peut-être grâce au digital. Bonjour Tristan Verdier.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Event Maker. Vous avez, vous, décidé d'inaugurer une initiative 100% digitale. Vous êtes une plateforme d'événementiel. C'est quelque chose que vous avez entièrement développé pendant le confinement.
Exactement. En fait, on s'est trouvé il y a 2 mois avec un impératif pour notre société. On était 20 salariés, on avait 2000 événements à gérer avec des clients, donc des événements plutôt B2B, hein, des congrès, des salons, des événements d'entreprise. Et l'impossibilité. Et puis donc face à la masse d'annulations qu'il y a eu dans un premier temps, la masse de reports qui des événements qui ont été reportés sur juin, puis sur septembre. En fait, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider notre secteur à survivre. Et donc du coup, on a lancé une solution d'événements en ligne. Voilà.
Alors on va détailler, mais je voudrais qu'on fasse le point justement sur le secteur de l'événementiel. Elisabeth, c'est vrai qu'il va être obligé de revoir son organisation.
Déjà au bout de 6 semaines de confinement, le secteur de l'événementiel, c'est-à-dire, on parle de quoi? On parle des concerts, des festivals, des salons. Ils avaient annoncé avoir perdu 15 milliards en France, hein, 15 milliards en 6 semaines. Et ça représente un quart du chiffre d'affaires annuel du secteur. Pourquoi ? Parce que tout a été annulé, hein, près de 4500 événements, 3000 heureusement qui ont été reportés. Et dans tout ce secteur, il y a des gros, il y a des grosses agences, mais il y a aussi des plus petits, il y a des TPE, des PME qui travaillent sur les salons, sur les congrès. Et donc ça correspond à beaucoup d'emplois. Et là, on va en parler, le virtuel sauve l'événement temporairement, mais ce ne sera pas durable.
Alors, temporairement ou pas, à vous de nous le dire, Tristan Verdier, comment on fait quand un salon est prévu, qu'il est annulé pour le remplacer en ligne ? Est-ce qu'on passe par exemple par la 3D ou est-ce qu'il y a d'autres moyens ?
Alors déjà pour commencer, je voulais revenir sur un point, c'est que l'événementiel c'est un secteur avec énormément d'emplois, c'est 1200 emplois à salon. Ouais, exactement. Mmh. C'est vraiment gigantesque. Et puis c'est surtout un secteur de sous-traitance avec énormément de TPE, bien de sûr. PME, y compris sur des activités qui sont malheureusement pas remplaçables par le digital. Et en fait, on a des associations professionnelles, Unimev et l'événement, qui font un travail formidable pour défendre cette cause et pour défendre ses emplois et puis ses compétences, parce qu'il faudrait pas que le secteur entier s'écroule dans l'année à venir. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on est face à une clientèle d'organisateurs d'événements B2B dont certains en fait ont des événements qui ne sont pas leur activité principale, d'autres c'est leur activité principale et s'ils arrêtent du coup ils ferment boutique. Mm-hmm. Et c'était un petit peu le cas pour nous, donc en fait on a imaginé dans un premier temps ce qu'on pourrait faire, et pour ça on a été jusqu'à revoir la définition d'un événement. Un événement
un événement, un salon par exemple, vous avez mis en place des salons virtuels.
Voilà, exactement. On va sur un événement aujourd'hui pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens et pour vivre une expérience. Donc tout le défi, c'était de se dire comment est-ce que on va être capable d'apporter cet apprentissage, ces rencontres et cette expérience depuis son ordinateur. Et donc pour ça, on a mis en place tout un système d'outils technologiques, de vidéoconférences, de chat, de networking et également d'animation à disposition à la fois des organisateurs d'événements, mais aussi des créateurs d'événements et de tous les gens qui vont être des agences et tout ça et qui vont penser comment rassembler ces gens-là.
Donc je peux acheter un ticket pour un salon virtuel par exemple ?
Alors aujourd'hui c'est déjà le cas sur un certain nombre de salons. Alors aujourd'hui il y a deux tendances principales. Il y a des événements qui se sont entièrement tournés vers la 3D, notamment l'événement Laval Virtual qui a eu lieu en avril. Mm-hmm. Et donc c'était le cas. On a fourni toute la solution de billetterie pour cet événement qui était en 3D. Et il y a des événements qui se tournent vers de l'apprentissage vidéo, donc vers ce qu'on appelle des webinars. Un webinar c'est une personne qui va parler avec une audience qui va l'écouter, ouais. Qui va éventuellement tout le monde des questions par chat, voilà. Et puis après des solutions de networking et de vidéo pour tout ça. Et on était même jusqu'à imaginer en fait la possibilité d'aller plus loin, parce qu'en fait sur tous les événements salons, toutes les soirées, tout ça, en fait il y a aussi une part d'activité et une part de des cocktails, des activités, tout ça. Et donc on a imaginé en fait comment l'animer autour de cette solution vidéo.
Riyad, notre coach.
Ouais, alors c'est pas simple. En fait, j'arrive plus bien à voir la différence entre ce que vous proposez maintenant. Autant avant, je comprenais le lien entre le digital et le physique et tous les systèmes de billetterie. Autant maintenant, par rapport au Zoom, enfin tout ce qu'on a utilisé là pendant cette période de confinement, c'est quoi votre valeur ajoutée là-dedans ?
Notre valeur ajoutée, ça va être d'être une plateforme tout en un, qui va permettre à un organisateur, en fait, de connecter très facilement les outils. Il faut savoir que sur un congrès...
De pouvoir monétiser les événements, en fait. De pouvoir avoir des événements qui peuvent être monétisés, ou plutôt B2B. On a vu hier, par exemple, que les réunions de syndic vont être acceptées en visio. C'est ça, vous tournez plus vers du B2B dans ce cas-là?
Exactement, tout à fait, parce qu'en fait il faut voir qu'un congrès ou un salon professionnel, ça peut être jusqu'à 500 ou 1000 personnes qui vont parler, qui vont s'exprimer sur scène, et tout ça c'est une énorme organisation. On peut pas utiliser des outils de visioconférence grand public comme Zoom pour gérer tout ça, c'est beaucoup trop compliqué. Donc il va falloir avoir des outils de gestion qui servent en fait à mettre exactement comme ce qu'on utilise pour passer à la radio,
ouais,
mettre les speakers dans des salles d'attente, leur permettre de parler et tout ça, et que bien sûr quand ils vont commencer à parler, tout fonctionne de la meilleure des façons.
Alors, on va continuer à en parler ensemble. D'ailleurs, vous restez avec nous. On va rejoindre Samantha Ivinek, qui est directrice de l'agence Good Night. Bonjour Samantha.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà, vous développez au niveau digital, mais aujourd'hui, avec le confinement, vous avez eu l'occasion d'imaginer des passerelles supplémentaires entre, on peut le dire, entre le réel et le virtuel ?
Exactement, oui. Comme vous le disiez précédemment, effectivement, le métier de l'événementiel est en quelque sorte en mutation en ce moment. On assiste à une hyper-accélération digitale. Et donc nous, chez Goodnight, c'est en toute logique qu'en ce moment, on met en avant l'un de nos savoir-faire, qui est le digital. Donc c'est un domaine dans lequel on avait déjà une réelle expertise, on était reconnus pour ça. Et aujourd'hui, on part du principe que nos clients ont toujours besoin de communiquer, de diffuser leurs messages. Donc on a développé plusieurs solutions permettent de recréer...
Des pop-up notamment.
Oui, voilà, on recrée les événements comme avant, mais en les transformant en expérience digitale. Donc, on allie la présence physique au digital. Et une des solutions qu'on a, c'est effectivement le pop-up store virtuel ou le pop-up virtuel. Donc, le gros avantage qu'on a chez Goodnight, c'est qu'on a un studio de création intégré et ça nous permet de modéliser, de créer des événements personnalisés pour les marques, en réalité augmentée, vraiment personnalisables et en l'occurrence, dans un pop-up, on peut imaginer un shop, un appartement à visiter et vos participants vont être transformés en avatars. Ils vont pouvoir évoluer dans cet espace, manipuler des éléments du décor, un peu à la manière d'un showroom, mais dans une version digitale.
Vous travaillez beaucoup avec les marques de cosmétiques, marques de luxe. On peut, par exemple, essayer sur son avatar le nouveau rouge à lèvres qui vient de sortir ?
Alors, non, on ne peut pas essayer physiquement
tout de suite,
rouge à lèvres. Bien évidemment, il y a des limites, mais on a des options, on a des choses qui permettent de vraiment d'allier physique et virtuel. On peut faire des portages à la maison, on peut vraiment prendre à partie le public, on peut créer des interactions avec une audience, même s'il est à distance. On peut aussi transformer les acteurs en... transformer l'audience en acteur de la prise de parole.
On est dans la gamification. Riyad Boulanoir, notre coach.
En fait, le digital aura été le grand gagnant de ce confinement, quoi. Et effectivement, en plus, la technologie est de plus en plus prête. On n'y est pas encore complètement, mais cette notion de réalité virtuelle, c'est encore compliqué. Il faut mettre des grosses lunettes. On n'est pas encore complètement
On a le casque, on a le masque.
On n'est pas complètement encore dans le bain, mais oui. Mais ça s'améliore. On y est pour bientôt. Et effectivement, ce mix entre réalité et virtuelle ou réalité augmentée, c'est quelque chose, c'est clairement l'avenir et effectivement les gens qui sont dans le digital l'ont compris et l'avaient déjà bien abordé avant, quoi.
Oui, il y a de plus en plus de souplesse et c'est vrai que c'est important quand on voit notamment, Elisabeth, le nombre d'emplois, vous en parliez tout à l'heure, qui sont concernés par ce secteur de l'événementiel.
D'après l'INSEE, c'est ce secteur de l'événementiel emploie près de 15 000 personnes. Il y a énormément de sous-traitants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que quand on organise un festival ou un événement, derrière, il y a la logistique, il y a les transporteurs, il y a les traiteurs. Un traiteur, par exemple, pendant un festival, il ne peut rien gagner avec le virtuel. Donc pour lui, c'est de l'argent perdu et ce sera pas forcément, il va pas forcément pouvoir le gagner lorsque ce sera reporté, c'est perdu. Et surtout que ça fonctionne beaucoup avec des contrats courts, les personnes qui travaillent dans l'événementiel. Alors le recours au chômage partiel évite des catastrophes, mais évidemment il faut commencer, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, à préparer la suite. Et le rebond, pourquoi pas.
Exactement, le rebond, on l'espère tous. Merci Samantha Ivinec de l'agence Goodnight et Tristan Verdier, fondateur d'Eventmaker, d'avoir été avec nous. 13h39.
Europe 1.
Ce qui est vrai pour les événements publicitaires ou pour les salons l'est aussi, vous allez le voir, pour les festivals et pour les boîtes de nuit, obligées de revoir leur copie. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h41, allez danser en boîte de nuit. Vous êtes évidemment nombreux à en rêver depuis le début du confinement. Alors, de nouveaux systèmes ont vu le jour pour continuer à animer le dance floor à distance. Bonjour Arnaud Perrine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Glazart. Vous allez mettre en place des événements. Le premier a lieu, pas demain, le 22 je crois.
Non, le premier a lieu la semaine dernière, là on est au deuxième déjà.
Ah, le deuxième, d'accord. C'est en voyant ce qui s'est fait à Berlin que vous vous êtes dit on peut faire la même chose, une plateforme de billetterie où on achète une connexion.
On voulait s'inspirer de ça. En fait, ce qu'on voulait, c'était garder le contact avec notre public. On n'était pas forcément au départ sur une plateforme payante. Et il s'avère qu'on cherchait un opérateur, un moyen technique de le réaliser, parce que c'est pas nos métiers. Et que notre plateforme de billetterie en ligne s'est lancée là-dedans. Il nous a proposé de travailler avec elle. Donc, du coup, on a fait ce format-là.
Donc, ça marche comment ? On a un ticket pour être en live devant son écran, comme si on était dans une boîte de nuit ?
C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des captations du set, donc de l'artiste en train de mixer, même là par rapport à celui qui arrive, il y aura même des danseurs. Donc vous avez cette connexion, et également vous avez un chat public sur lequel vous pouvez interagir avec tout le monde, raconter un petit peu ce que vous voulez. Et également des rooms privés, c'est-à-dire que vous montez
des espaces VIP ou des espaces privés
juste, ouais. Et en fait sur lesquels vous pouvez inviter d'autres gens, donc vous pouvez rencontrer d'autres gens, c'est-à-dire qu'au
maximum.
Cours de la...
Combien de personnes dans ces espaces ?
Il n'y a pas de maximum.
Donc vous êtes en train de me dire que si par exemple j'ai envie de me connecter demain, je peux dire à Elisabeth et à Riyad, venez, on va en boîte de nuit ensemble.
Oui. C'est
exactement ça.
Et
au cours de la soirée, vous pouvez inviter. Et au cours de la soirée, vous pouvez rencontrer d'autres gens et les inviter dans la room que vous aurez créée avec Riyad.
Mais ça, c'est une fois que vous allez pouvoir ouvrir.
Non, on peut déjà ouvrir. En fait, on a l'interdiction d'ouvrir au public. Maintenant, ce sont nos bureaux, ce sont des établissements de bureaux. On respecte tout ce qui est mesures, barrières, etc. Donc, on a le droit de. Maintenant que nous sommes déconfinés, on a le droit d'aller travailler.
Dans un endroit clos, pas au-delà de 10 personnes. Donc, dans cette fameuse room, on peut pas aller au-delà de 10.
On est d'accord que c'est une room virtuelle. On est chacun chez soi.
Oui. Exactement.
D'accord. C'est juste l'écran qui nous relie et qui nous permet d'assister au live du DJ.
C'est ça. Nous, on doit être 6, en vrai.
D'accord.
et c'est un moyen de garder le contact avec vos fidèles ?
Oui. C'est vraiment un moyen au départ de garder contact avec le public. Et puis, par la même occasion, le fait qu'on fasse quelque chose de payant, vu le prix qui est pratiqué, le nombre de connexions, etc. Enfin, c'est vraiment pas un modèle économique. Mais au moins, ça nous permet de pouvoir payer, on va dire aussi, des emplois qui sont un petit peu précaires dans notre écosystème, comme les intermittents du spectacle, les artistes, certains extras, qui eux ont du mal à obtenir le chômage partiel. Donc du coup, ça nous permettait aussi de transformer ça, on va dire, en quelque chose de solidaire.
Riyad ?
Encore une fois, hein, c'est la technologie, on voit le digital qui intervient à fond. Je sais pas si quand même on peut remplacer aussi facilement le contact humain, voir DJ en train de mixer et danser seul. C'est un peu comme ces apéros qu'on a fait au départ, c'était très amusant. Et puis au bout d'un moment, on s'en lasse, quoi. Parce qu'on a re-besoin de contact humain. Donc forcément, c'est des solutions qui existeront, hein, et qui vont continuer à exister.
Oui, c'est un palliatif, oui.
Mais voilà, c'est un palliatif. Je crois qu'on va vraiment avoir besoin de se revoir. Donc il faut inventer des bagues, des hug bags ou je ne sais pas quoi. Mais il va falloir qu'on se retouche un peu, je crois.
Oui, on est obligé de se réinventer. Elisabeth, puisqu'on parle musique, au mois d'avril, le Printemps de Bourges qui a été annulé, c'est presque déroulé comme prévu.
On peut dire ça parce que totalement virtuel, ce Printemps de Bourges, c'est-à-dire qu'il a pu avoir lieu, il a duré 4 jours, et pendant ces jours il a pu avoir lieu, on a pu diffuser sur internet le déroulé de la programmation. Donc voilà, d'une certaine manière, ça a un petit peu, je dis pas que ça a sauvé ce 44e Printemps de Bourges, mais à sa date d'ouverture, il y a eu d'ailleurs, ça s'appelait Un Printemps Imaginaire, et ils ont mis au point des petits films exclusifs dédiés au festival. Donc là aussi, ça a pu faire travailler, j'imagine, certaines personnes. Voilà, ça, c'est un des plus grands festivals de musique. Ils n'ont pas pu organiser leur édition 2020. Et bien voilà, on trouve des idées, ils se sont débrouillés. Il a été en digital, mais bon, voilà, ça a marché aussi.
Alors on va changer de son, hein, si vous le voulez bien, direction le Maison Lafitte Jazz Festival. C'est la 16e édition et elle aura lieu, mais de manière toute particulière. Bonjour Samuel Strouk.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth, bonjour Riyad.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur artistique, compositeur, guitariste. Les organisateurs justement ont voulu qu'elle se tienne, hein, coûte que coûte, mais en digital, parce que le secteur culturel est, et on l'a dit, particulièrement touché par cette crise.
Oui, complètement. En fait, si vous voulez, il y a effectivement l'idée de départ de cette organisation, c'est vraiment un élan solidaire. C'est-à-dire que moi, étant musicien, j'avais un certain nombre de mes collègues musiciens que je connais, que je côtoie, que j'aime en tant qu'ami, et que je voyais tous un petit peu terrassés avec leur famille, tout qui s'annule, etc. Et puis je me suis dit, moi, j'ai quelque chose à jouer parce que si j'arrive à convaincre, vous savez que le modèle économique d'un festival n'est pas du tout, comment dirais-je, un modèle économique rentable. Oui. Ça fonctionne sur un certain nombre de mécénats, de subventions. subventions. Et donc je me suis dit que si j'arrivais à convaincre les gens qui financent habituellement le festival de conserver tout simplement ça, eh bien on pouvait déjà venir en aide dans un premier temps aux personnes. Ça, c'était l'idée de départ. Et il s'est avéré, aux personnes, c'est-à-dire aux amis, aux musiciens, aux gens qui pouvaient participer, qui étaient prévus cette année. Et il s'est avéré qu'en réalité, ça a déclenché un mouvement de solidarité de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a dit, mais on veut le faire, on veut faire ça, on veut faire quelque chose. Et donc, si vous voulez, je me suis retrouvé au centre d'un élan qui rassemble l'ensemble des professionnels qui travaillent donc sur ce type de festival, à savoir, ça va des artistes techniciens jusqu'aux chargés de communication, graphistes, attachés de presse, tout l'écosystème professionnel qui travaille sur cet événement.
Donc, vous avez imaginé une séance digitale et tout le monde sera rémunéré parce que les partenaires, tout le monde a fait un effort.
Alors voilà, j'insiste, les partenaires ont été solidaires vraiment là-dessus, c'est ce qui a permis de déclencher. J'insiste aussi sur le fait que j'ai une autorisation administrative qui m'a été donnée pour le faire, donc le soutien de la ville de Maisons-Laffitte, de la région, du Fonds pour la création musicale, de la SACEM, de la DAMI, les partenaires locaux et les mécènes aussi qui sont restés dans le jeu ont permis de faire ça.
Ça va marcher comment? Il va y avoir des captations de concerts qui seront ensuite diffusés?
Exactement, il y a une démarche artistique dès le départ, parce que moi quand j'en ai parlé, les musiciens ont tout de suite réagi, donc je tiens à préciser aussi que les musiciens ont tous fait un effort et important aussi sur leur rémunération pour que ceci soit possible, donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est pour ça que je disais un élan collectif, à tous les niveaux, tout le monde y met du sien. Et donc concrètement, en parlant avec eux, assez rapidement, on a voulu se dire, mais oui, on va pas faire juste une captation de concert, parce qu'une captation de concert, finalement, quand il n'y a pas de public, ça peut être un petit peu fade. Donc on a mis en place toute une idée artistique de réalisation qui est une captation de concert, mais qui va essayer d'être un témoignage aussi de cette retrouvaille de ces musiciens sur scène. Parce que vous savez, j'entends un certain nombre de personnes qui viennent à l'antenne depuis tout à l'heure, qui donc parlent de leur activité professionnelle, qu'ils ne pouvaient plus exercer, et ils ont trouvé des solutions pour les mettre en place. Mais là, on est un tout petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire que vous pouvez être un amateur de la musique, et quand vous êtes en confinement, vous ne pouvez plus jouer avec quelqu'un d'autre en direct. Donc vous perdez le contact, Riyad en parlait tout à l'heure, le contact physique auquel il faut revenir. Alors sans se toucher, mais dans la musique, le contact physique, c'est d'être dans la même pièce et d'échanger des ondes ensemble, les jouer ensemble dans le même rythme, etc. Et là, c'est ce qu'on va mettre en place, c'est-à-dire qu'on va proposer des conditions professionnelles à tous ces musiciens, ces techniciens, etc., pour produire des contenus non seulement inédits, mais des contenus où on va enfin retrouver ce qu'on n'avait pas, si vous voulez, dans les Facebook Live, chacun chez soi devant son ordinateur, des contenus où on va enfin retrouver l'interaction qu'on peut trouver notamment dans la musique du jazz et donc chez ces musiciens.
Et l'heure tourne, donc on va être obligé malheureusement de se quitter. Je crois qu'on aurait aimé vous entendre encore, mais je précise que les concerts seront tournés bientôt, les 27 et 28 mai, diffusés entre le 12 et le 21 juin. Merci d'avoir été avec nous.
Voilà, sur Facebook Live, sur YouTube, et voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Europe 1. Vous avez peut-être besoin d'un conseil ou d'un coup de main, ne bougez pas, la France bouge, vous aide. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
C'est l'heure du coup de main de la France bouge. Et si vous aussi, vous êtes start-upper, commerçant, artisan, patron de TPE ou de PME et que vous avez une difficulté à résoudre, vous n'hésitez pas, nous ferons notre possible pour vous répondre avec Nathalie Carré qui nous accompagne pour la CCI France, chargée de mission entrepreneuriat. Bonjour Nathalie.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Alors aujourd'hui c'est Bakary Camara qu'on retrouve. Bakary qui est le fondateur de Tip Top, qui fabrique au départ des protèges tibia connectés, Made in France. Ça marchait très bien, sauf que le foot s'est arrêté. Du coup, Bakary, vous avez dû repenser totalement votre business et lancer un nouveau métier finalement à cause de la crise.
Oui, exactement. Bonjour à tout le monde. Bonjour Raphaël. Ben effectivement, oui, vous avez très bien planté le décor. Voilà, l'activité sportive étant complètement à l'arrêt. Donc ça nous crée à nous un fort ralentissement d'activité au niveau des ventes de nos protèges tibia connectés. Et là, donc voilà, là je m'en remets à mon ancienne expérience de commerçant. J'ai été commerçant pendant 8 ans, commerçant de proximité. Et donc là, voilà, l'idée c'est d'amener toute une réflexion autour d'une initiative de solidarité auprès de cette population de commerçants de proximité, accompagner efficacement leur déconfinement en apportant finalement une nouvelle manière de concevoir cette proximité. Donc là, on va vraiment attaquer l'essence de la proximité avec le lien entre consommateurs et commerçants.
Vous avez créé une appli qui s'appelle Spont, c'est ça?
Tout à fait.
Quel est le problème alors pour la développer?
Alors le problème aujourd'hui, elle est développée, elle est sur les stores depuis une semaine maintenant. Donc c'est une application qui permet à un commerce de proximité donc de rendre visible via une application mobile donc ses promotions. Donc là on est vraiment sur de l'instantané et du spontané comme le nom de l'application. Voilà, un commerçant qui est dans son magasin, qui a un produit à déstocker ou à écouler, donc il le prend en photo avec une durée limite de validité de promotion, pardon. Et derrière, donc il y a tout le côté géolocalisé qui est là pour bien le faire figurer sur une liste d'annonces finalement, comme des publications sur les réseaux sociaux, avec tout un jeu de notifications et la possibilité de rentrer en contact avec les consommateurs.
Ouais, la vraie difficulté, c'est comment on en fait un business. Nathalie, est-ce que vous avez des pistes pour Bakary?
Oui, bonjour. En fait, votre élan de solidarité est intéressant dans cette phase où il faut effectivement être solidaire et aider nos commerçants. Ce qu'il faut, c'est que cette phase-là, elle serve à votre projet plus entrepreneurial, j'ai envie de dire, d'en faire un vrai business. Donc peut-être la première chose, c'est effectivement d'avoir beaucoup de commerçants. Alors peut-être quelques idées pour aller pour promouvoir l'appli auprès des commerçants. Donc évidemment les associations de commerçants. Vous avez France Num qui répertorie toutes les bonnes initiatives numériques pour aider justement les commerçants. La FEVAD et aussi qui est la fédération donc des commerces à distance. Évidemment toutes les collectivités qui cherchent à aider leurs commerçants à résister, les placer sur les marchés. Et puis, vous pouvez peut-être imaginer un espèce de truc un peu jeu concours, ambassadeur, c'est-à-dire que celui qui vous ramène un client ou un commerçant gagne un petit cadeau que vous pourriez prendre auprès d'un partenaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de commerçants. Puis de l'autre côté, parce que pour la phase 2, qui sera celle où vous allez devoir vous faire rémunérer, il va falloir prouver qu'il y a un engagement de la part des particuliers quand ils ont récupéré votre promo, votre vente flash. Donc il faut travailler effectivement sur cet engagement. Donc ça, il faut vraiment jouer, il faut aider les commerçants à poser leur offre au bon moment. Parce que si, par exemple, je vous prends un exemple, c'est à quelque chose qui concerne, je sais pas, le papier de toilette, n'importe quoi. Et donc c'est plutôt maman ou papa qui achète, que l'offre, elle est entre 14 et 15 heures. Bah, a priori, on est peut-être au boulot à cette heure-là, donc cette offre-là, on peut pas en profiter. Donc il faut aider le commerçant à choisir les bons produits, la mettre sur la bonne durée, la faire partir à la bonne heure. Et puis effectivement essayer de jouer sur la durée pour que les particuliers courent chercher cette offre. Et puis du coup ce qu'il vous faut, c'est collecter de la donnée, parce que il faut que vous sachiez combien de temps les gens mettent pour réagir, le taux de transformation, etc. Parce que en phase 2, quand on aura passé l'été, en septembre ou octobre, vous allez pouvoir effectivement récupérer ces données-là, fort de cette expérience, et puis aller voir les commerçants, cette fois-ci transformer ça en une solution de communication qui pourrait être payante pour eux. Mais il faut leur apporter la preuve du business que ça leur rapporte.
Alors, on va voir ce qu'en pense Riyad qui est avec nous, notre coach. Qu'est-ce que vous diriez à Bakary?
Déjà, il y a deux choses. Bon, sur l'appli de localisation de commerçants et de promotion, bon, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'applis qui sont comme ça. C'est pas toujours facile de constituer sa base de commerçants massif pour qu'elle soit effectivement référencée par tout le monde. En revanche, ce que je vois, c'est qu'il fait des protèges tibia pour les footballeurs. Je me dis, je me suis planté deux fois en trottinette dans les trois derniers mois. Je me dis qu'il y a des gens qui reprennent les trucs. Pourquoi ils cherchent pas à adresser plutôt une autre clientèle sur son business déjà existant, quoi, pour faire rentrer tout de suite un peu de trésorerie, quoi.
Vous y avez pensé, Bakary?
Ah, mais l'activité, elle est là, elle va reprendre, le foot va reprendre, et donc c'est quelque chose de tout récent sur lequel on a beaucoup investi, on a
parce que vous êtes très sportif, mais il y a énormément de gens qui ont besoin de protection en ce moment, parce qu'ils vont courir le vélo, ils vont reprendre la trottinette, on le voit, il y a des accidents, etc. Si vos protèges tibia peuvent avoir cette utilité, ça vaudrait le coup d'explorer cette piste déjà, parce que c'est un métier que vous connaissez tout de suite et que vous êtes capable de délivrer tout de suite. Voilà ce que je pourrais.
Mais on monte en compétence sur ce domaine du foot qu'on connaît bien. Et puis le tout, c'est qu'il y a tellement de choses encore à faire sur ce domaine-là. Là, on est vraiment dans l'initiative, dans ce que j'ai présenté et qui peut faire l'objet d'un autre business sur une autre start-up. Mais là, tout de suite, c'est vraiment de lancer ce concept qui peut vraiment changer des habitudes.
Oui, donc c'est un deuxième business qui finalement pendant la crise s'est imposé, mais qui va devenir peut-être une nouvelle source d'inspiration pour vous, Elisabeth.
Oui, moi j'étais sur la ligne de Riyad. Moi, je pense qu'il faut approfondir ce qu'on sait déjà bien faire. Et donc le protège tibia, là, on a vu
en plus,
les chiffres.
Les geeks vont être contents. Il est connecté.
Le vélo ouais. Explose. Là, si vous voulez acheter un vélo, parfois il y a des listes d'attente jusqu'au mois d'octobre-novembre. Hein, j'en ai fait les frais. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est sur les protèges tibia et aller au-delà des clubs de foot. Il faut aller sur toute la mobilité là.
Donc Bakary, vous avez deux idées finalement, les idées pour développer le business de Spont avec Nathalie, il y avait énormément de choses, et puis vous pouvez effectivement peut-être explorer de nouveaux horizons avec Tip Top pour les vélos, pour les trottinettes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Bien. Merci beaucoup à tout le monde, merci à vous.
Merci Nathalie, merci Elisabeth, merci Riyad, on se retrouve demain, même heure, même endroit, évidemment.
Évidemment à demain.